The day I follow Aubrey Hale Clayton on a wet deck. That day. I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Infoculture, un mercredi sur deux sur Radio G, les semaines paires. Salut les gars.
Salut.
Salut Seb.
On espère
Romain.
Que Seb va arriver.
Il est dans les embouteillages, à mon avis.
Ah, c'est, oui, c'est possible.
Certainement.
Alors, c'est la deuxième émission de la saison, une nouvelle formule, hein, puisque nous faisons cette saison des émissions thématiques.
Ouais.
Et ce soir, on a un thème, on a choisi un thème. On essaye de vous le faire découvrir, chers auditeurs, chères auditrices. Est-ce que vous allez deviner de quoi il s'agit si je vous mets un peu de musique, par exemple ? Alors, quelle série allons-nous parler ce soir ?
Iconique, Joséphine Ange Gardien ?
Non, Breaking Bad.
Breaking Bad.
Alors ce soir, on va parler de Breaking Bad, cette série culte. Hein, et donc, on va d'abord se poser la question, c'est quoi hein, pour nous Breaking Bad ? Les personnages de la série, les scènes marquantes, les épisodes préférés, la morale, la question de la morale, de la manipulation, de la violence dans cette série. Mmh. Et puis, El Camino, Better Call
l'héritage.
Saul, l'héritage, les brèves culturelles pour terminer l'émission.
Ah Pierre, ouais, si on a un petit moment fun facts.
Eh ouais,
ah oui,
quelques
c'est vrai.
Uns, voilà. Quelques-uns, si on a un peu de
voilà.
temps.
Si on a un petit peu de temps.
Ouais.
Alors, il faut ouvrir à Seb qui est en retard.
Bah, voilà. C'est le direct.
Ce sont les aléas du direct. En attendant, on va mettre un peu de musique du coup.
Hein, bah ouais,
et on reprend c'est... juste après.
Et toi, qu'est-ce que tu as à nous proposer ?
La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Anda caliente el cartel, al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Nadie sabe.
Alors, Seb, salut. Alors, excuse-moi, j'avais pas monté le bon micro,
ah,
ça y est.
Ah bah voilà, tu vois, on me censure hein, déjà, monsieur est censeur, bonjour.
Non, c'était juste une erreur technique.
Sais bien. Donc bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs, bonjour à des loulous qui m'écoutent aussi en même temps. Donc,
et
voilà.
Ouais, bonjour à tout le monde.
Bonjour à tout le monde.
Petite introduction pour cette émission spéciale Breaking Bad. Alors, Breaking Bad s'est achevé il y a 11 ans cette année, au bout de 5 saisons et 62 épisodes. Évidemment, elle est dans tous les tops hein, des meilleures séries jamais produites pour la télévision. Donc ce soir, c'est un flashback sur son culte, sur son univers, son influence sur les médias aussi. Elle est disponible sur Netflix et il n'est pas trop tard pour la rattraper si vous ne l'avez pas vue. Mais l'aventure ne s'arrête pas là puisque son univers s'étend avec le film El Camino, disponible sur Netflix et le spin-off Better Call Saul avec Bob Odenkirk qui s'est terminé l'année dernière. Voilà. Alors les gars, quels sont vos souvenirs de Breaking Bad ? Quel est votre rapport à cette série ? Romain, à toi.
Waouh, alors c'est difficile parce que, enfin, c'est pas difficile et difficile à la fois parce que c'est tout simplement ma série préférée de tous les temps.
Ah bah carrément.
C'est celle qui m'a le plus transporté. C'est celle que j'ai dévorée, que j'ai vue trois fois. Alors faut se les faire les trois fois 62 épisodes.
Ah, moi j'ai vu deux fois.
Ah quand même. Mais je ne peux évidemment que conseiller à nos chers et fidèles auditeurs s'ils l'ont toujours pas vu ou alors je connais aussi des personnes, ça arrive parfois, qui débutent, qui se laissent pas toujours le temps d'accrocher à la série et qui ont abandonné. Bah je leur suggère de nouveau laisser une chance à la série parce qu'elle est iconique, parce qu'on passe des moments incroyables, parce qu'on a des climax incroyables, des montées, des descentes, c'est fou quoi.
Tu as raison, parce que la saison 1 elle installe un peu l'histoire.
Exactement.
Seb, ton rapport à Breaking Bad?
Alors moi, mon rapport avec Breaking Bad, la découverte, c'est tout simplement avec le personnage de Walter White, donc l'acteur Bryan Cranston, que j'adore, que j'ai découvert lui plutôt dans une autre série qui n'a strictement rien à voir, hein. Je pense que là, certains commencent
à se... Malcolm,
voilà. Moi, je trouve déjà dans ce rôle génial. Et quand j'ai vu, je me souviens encore avoir vu la bande-annonce, justement, de Breaking Bad, j'ai fait « Oh !» Et oui. Ça, je vais regarder. Et effectivement... Et je n'ai jamais été déçu.
Merci Seb. Pablo, à toi.
Eh ben écoute Seb, moi ça a été, c'était une série d'abord dont j'avais entendu parler et dont tu m'as parlé. Et je me rappelle la phrase que tu avais prononcée, tu as de la chance de ne pas la connaître encore.
Ah oui, bien sûr.
Et voilà, et alors du coup je m'y suis plongé. C'est vrai que moi j'aime beaucoup les séries autour des gangsters, autour des bad guys,
oui.
C'est ça. J'avais par exemple adoré Sons of Anarchy, oui. Et c'est vrai que là on plonge dans un univers. Après moi, ce qui m'a vraiment frappé, et c'est ça aussi Breaking Bad, c'est ça pour moi, c'est une esthétique vraiment très particulière avec des plans incroyables, souvent très inattendus. Il faut dire que le réalisateur Vince Gilligan, en fait, plutôt qu'est le scénariste, hein, le créateur, il a confié la caméra à plein de réalisateurs différents, ce qui donne aussi des esthétiques,
des
touches. Et ça, je trouve ça assez incroyable.
Et il vient du, comment dire, de la science-fiction, parce qu'il travaillait sur Exiles. Absolument.
Voilà. Ah oui, la vérité est
qui a bercé notre enfant.
Alors moi, j'ai découvert, attention, accrochez-vous, Breaking Bad sur Arte. Parce qu'en fait, elle a été diffusée la première fois en France sur Arte, il y a très longtemps. Donc ça m'avait un peu surpris de découvrir ce genre de série sur cette chaîne. Une chaîne que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui diffuse pas forcément des séries, parce que c'est un thriller quand même, Breaking Bad. Bon, bref. Et donc j'avais accroché vraiment, parce que c'était un peu décalé par rapport à ce qu'on voyait d'habitude. Alors moi aussi, comme toi Pablo, j'aimais bien les séries avec des bad guys, hein, parce que j'adore les Sopranos. Il y avait Tony Soprano. Donc j'avais vu des séries comme ça. Et là, je me suis laissé prendre parce que, on va en parler tout de suite, hein, parce que les personnages, parce que Albuquerque, parce que voilà, l'histoire incroyable de Walter White, Heisenberg. Et la musique très présente dans la série.
Oh baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Yes, baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Oh baby, we like it raw. Yes, baby, we like it raw. Yes, baby, we like it raw. Shimmy, shimmy, you shimmy, yeah. You shimmy, 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 yeah. You shimmy, 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 yeah.
Et voilà, c'était Prince Fatty avec Shimmy Shimmy dans Mon Geek Mafia sur Radio G. Est-ce que vous voulez un petit truc rigolo pour c'est la suite? Voilà. Je fais un remix avec les Beastie Boys. Creature Shock Radio FM. Alors, on va parler des personnages de cette série incroyable Breaking Bad. Et je fais un petit coucou à Paul qui nous écoute et à Florence.
Coucou.
Alors, qui veut commencer? Qui démarre en parlant bien sûr de Bryan Cranston qui joue Walter White alias Heisenberg. Alors, le spécialiste.
Oh, le spécialiste, je sais pas.
Allez, vas-y, Seb.
Je sais pas, mais bon, c'est vrai que c'est un personnage vraiment, vraiment intéressant. On commence finalement par découvrir ce pauvre professeur de chimie qui malheureusement apprend qu'il a un cancer et qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre.
C'est vrai.
Voilà. Alors bon, on se plaint un petit peu de notre système de santé, mais bon, disons que ça coûte un peu moins cher qu'aux États-Unis quand même. Et le traitement de Walter White, même si malheureusement le résultat est quand même plus qu'incertain, il faut quand même se soigner et puis assurer l'avenir pour la famille.
Exactement, parce que il faut dire, excuse-moi Seb, c'est oui. que sa femme est donc il a un enfant, il a un oui. fils et que sa femme est enceinte.
Elle est enceinte, donc là tout s'écroule, son monde s'écroule.
Il lui faut de l'argent.
Il lui faut de l'argent. Et ben la seule chose qu'il sait faire, c'est faire de la chimie.
Oui, il est professeur de chimie.
Il est professeur de chimie. Et parmi ses élèves, un de ses anciens élèves, il y a quand même Jesse.
On va en parler après, Jesse Pinkman.
Ouais. Jesse Pinkman, on va en parler après. Et donc voilà, et du coup on va suivre ce personnage, en tout cas dans la première saison, puisque tout se pose. La question c'est comment faire pour gagner de l'argent et pouvoir assurer l'avenir de la famille. Et finalement, ben, ça dérape. Ça glisse.
Ça dérape très vite.
Ça dérape très très vite et il maîtrise absolument plus rien avant de reprendre la maîtrise. Hein, finalement, ouais. On est sur 2-3 saisons où alors là il ne maîtrise absolument plus rien. Et puis arrivé sur la saison 3, là il commence à reprendre finalement le destin.
Se transforme.
Et il se transforme en Heisenberg.
Say my name.
Voilà. Et voilà. Et là c'est le drame.
Alors d'autres personnages les gars que vous voulez mettre en avant, Jesse Pinkman par exemple, Romain?
Pas spécialement.
Pas spécialement.
Alors moi oui.
Ouais. Ah, Pablo,
ouais,
pardon.
Ouais. Moi c'est vraiment Jesse Pinkman. J'aime beaucoup ce personnage parce que il a une espèce de fraîcheur. Au départ, il est clairement, on a l'impression d'un gamin qui a laissé un petit peu son cerveau à l'école et on se demande mais qu'est-ce qu'il va faire avec Heisenberg, enfin avec d'abord Walter White. Et effectivement, il se révèle non seulement super compétent, utile, etc., mais il va prendre une dimension au cours de la série. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va passer par des hauts et des bas. Beaucoup de bas.
Énormément, il est maltraité, il est manipulé.
C'est intéressant ça, parce qu'on en parlera.
Carrément.
Ouais, et quand on parlera de la morale.
Exactement.
Voilà.
Parce qu'il devient un peu le fils de Walter White et en même temps son souffre-douleur.
Sa marionnette. Et en même temps, Jesse Pinkman, il y a quelque chose, son rapport à Jane, qui va être un moment clé.
Jane, c'est sa copine
qui est toxico. Ce moment clé de l'histoire va faire aussi toute une bascule par rapport à Heisenberg et quelque chose qui aura plusieurs échos dans d'autres épisodes et notamment sur la fin de la saison 5 où là effectivement les choses éclatent. Et puis bon, après si on suit El Camino, on a la cavale.
On en parlera après d'El Camino à la fin,
voilà,
on parle d'El Camino et du
mais bon,
spin-off.
Jesse Pinkman, voilà quelqu'un qui a toute une progression, mais en même temps qui reste aussi ce gamin un peu tout fou que j'aime bien.
Romain, quel personnage?
Je dirais il y en a deux avec un qui prend le dessus quand même.
Je suis sûr qu'il y a Gus Fring.
Eh ben, il y aurait pu avoir Gus Fring, mais je trouve que le beau-frère Hank Schrader,
j'adore.
Je trouve qu'il est très très bien joué et surtout
flic, c'est un flic.
Je trouve qu'il est très très bon dans toute la série. Les personnages sont de manière globalement assez excellents. Donc c'est le jeu à chat du chat et la souris. Évidemment, il cherche qui est parce que lui, il est dans la brigade des stupes. Enfin, il s'occupe d'essayer de débaucher les trafiquants et il se doute pas évidemment que son propre beau-frère est celui qui est à la tête du trafic qui monte, sans vouloir trop dévoiler bien sûr. Et surtout, il y a un personnage qui est Mike que je trouve excellent.
Oui, Mark. Ouais. Excellent.
Ouais, qui est campé par Jonathan Banks. Et franchement, je dois vous le dire, mon regret, c'est qu'il n'y ait pas eu un spin-off sur ce personnage. Parce que je trouve qu'il était extraordinaire.
Ouais.
Moi, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Et je ne vais pas raconter la série.
Non.
Mais même à un moment assez crucial, il fait fermer ça à White d'une belle manière. Vraiment. Et cette scène-là, elle est assez iconique aussi pour moi.
Ouais.
Ce qu'on peut juste rajouter sur ce personnage, tout simplement, c'est aussi, il ne faut pas oublier, c'est avant tout un grand-père.
Oui, aussi, bien sûr.
C'est surtout ça.
C'est pour ça qu'un spin-off aurait été vachement intéressant.
Mais oui, parce que c'est un grand-père et c'est un tueur.
Et oui.
Et le gars.
N'en dites pas trop.
Ouais, mais... Alors, je crois qu'il faut qu'on prévienne les auditrices et les auditeurs
qu'on
va spoiler un petit peu. On préviendra
les
quand il y aura, quand il y aura vraiment des gros spoils, on vous dira attention, allez vous prendre un petit café.
Alors, moi, il me reste plus beaucoup de personnages présenté, mais alors je vais quand même parler de certains personnages. Il y a quand même Skyler White, qui est la femme de Walter White, qui est en fait un personnage qui est souvent détesté par les fans de la série.
Absolument.
Alors qu'elle est extrêmement importante en fait.
Tout à fait.
Bah oui, parce que elle n'est pas du tout au courant des activités de son mari, qui lui ment tout le temps. Et le jour où elle va le découvrir, ça devient un personnage mais hyper intéressant.
Exactement.
Parce qu'elle est beaucoup plus forte en fait.
Saison 4.
Elle a du caractère. Hein,
oui.
Bon, il y a aussi son fils qui est, c'est intéressant parce que c'est un personnage handicapé. Oui. Donc on n'en voit pas souvent. Mmh. Et là, il est bien présenté, il est bien traité. Je trouve que le personnage est bien dessiné. Il est pas dans son rôle d'handicapé, il est dans le rôle du fils de Walter.
Fils de Walter White, et qui comprend pas non plus.
Et puis, bien sûr, il y a Saul Goodman dont on parlera quand on parlera tout à l'heure de Better Call Saul. Et puis Gus Fring quand même.
Fring
joué par le génial Giancarlo Esposito, qui est le soi-disant un patron de fast-food où on mange du poulet.
Pollos hermanos.
Mais comme qui en fait est un des barons de la drogue. Donc on est vraiment plongé dans cette atmosphère grâce à ces personnages incroyables et à leur parcours. Le parcours de Walter White, c'est quand même le parcours de quelqu'un qui au départ est un mec bien et qui devient un salaud. Ce qui est quand même très très rare dans les séries américaines. C'est souvent le contraire. Un personnage très méchant qui va s'amender, il va y avoir une rédemption, etc. Là, c'est vraiment la descente aux enfers.
Et d'ailleurs, du coup, si on vous demande pour vous le personnage le plus détesté dans la série,
souvent c'est Skyler qui est.
Ouais, c'est souvent Skyler, mais
je comprends pas trop pourquoi d'ailleurs.
J'y viendrai quand on parlera de la morale tout à l'heure, à mon sens.
Ça marche.
Mais c'est pour ça.
Moi, celui que je déteste, c'est Todd. C'est celui qui. On le voit pas au début de la série.
À la fin, oui.
Todd, à la fin, où il est horrible, ce gars.
Ah, c'est celui qui tire sur le gamin en moto.
C'est horrible ce personnage.
On le revoit dans El Camino, mais par contre, il a pris 40 kilos. C'est pas très crédible.
L'acteur est vraiment très bon.
Jesse Plemons.
Il est détestable. C'est un
on le voit dans beaucoup.
Depuis, on le voit partout.
Moi, c'est vraiment le personnage que je déteste.
Alors, moi, c'est Heisenberg. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, autant au départ tu t'attaches à Walter White parce que comme tu disais Seb, tu comprends son parcours et même si c'est pas très classe ce qu'il fait,
c'est pas très classe.
C'est pas classe du tout.
Ça manque un peu de tenue.
Mais à un moment, quand même, ce Walter White quand il switch en Heisenberg, là on a un espèce de monstre froid. Il y a zéro empathie et c'est que un stratège manipulateur.
En fait, il y a quelque chose moi qui me dérange un peu par rapport à ça, mais je suis d'accord avec Pablo. Finalement, c'est parce que c'est un peu comme Tony Montana.
Oui, puis la série Narcos, la fascination que ça peut générer auprès des jeunes publics.
Comme Tony Montana, effectivement, dans Scarface et ce que tu disais aussi, Romain, c'est-à-dire que ça va fasciner des gens. Alors que le type est un salaud, il est horrible, et c'est vrai que c'est assez perturbant. Enfin bref.
Ouais.
Petite pause musicale parce que les gars, vous avez voulu écouter certaines musiques. Alors écoutez, je pense que Gangsta's Paradise c'est quand même approprié.
C'est très approprié.
Tout de suite dans Mon Geek Mafia sur Radio G.
105, la radio qui fait bruit.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been screaming most of the night, feeling it against the.
The situation they got me facing, I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you?
Most of the lives, living in the gangster's paradise. We've been screaming most of the lives, living in the gangster's paradise.
money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking.
C'était Coolio avec Gangsta's Paradise.
Dommage, parce qu'il est décédé.
Oui, il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Oh là là, carrément.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio, là.
Un petit clin d'œil à Paul. Alors, les gars, maintenant, on va parler de nos épisodes préférés. Et on va, ben oui, bien sûr, on en a tous. Et puis, peut-être, si on n'a pas d'épisodes préférés, des scènes marquantes, des scènes qui nous ont marquées dans Breaking Bad. Qui veut commencer? Bon, évidemment, on va parler de l'épisode de la mouche.
Ah, bah, il est.
Ah, ben, moi, je l'avais classé comme un épisode le plus original, quoi.
Alors, vas-y, Pablo.
Oh non, mais je...
Bah si, bah tu peux enchaîner.
Okay.
On discute, on enchaîne.
Ça marche, c'est le plus original. Il s'appelle The Fly, la mouche. Il est dans la saison 3, épisode 10. Globalement, il y avait un problème de budget à ce moment-là. Il y avait la production avait réduit le budget. Ils étaient dans l'attente. Donc, ils font un épisode bouteille, comme ils disent. Alors, c'est un épisode où, effectivement, ils ont l'idée d'introduire une mouche dans le laboratoire que Gus Fring leur a accordé à Jesse et Walter White, et bon, pour qu'ils cuisinent leur méthamphétamine. Et là, en fait, Walter dit qu'ils ne peuvent pas laisser cette mouche qui va contaminer le produit. Et là, tout tourne autour de ce truc. Mais en même temps, on a plein de flashbacks qui font sens avec la suite de l'histoire. Qu'est-ce que vous...
Très très bon épisode. Épisode culte, évidemment, celui de la mouche. Parce que c'est comment faire un épisode culte avec peu de moyens.
Exactement.
Il y avait une grève des scénaristes.
C'est ça,
Il y en a régulièrement.
Ah ouais.
Quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Là, ils ont eu une belle idée.
Autre scène marquante, autre épisode marquant, le dernier, forcément.
Le dernier, hein. Le dernier,
sans spoiler trop.
Ça va être difficile.
Alors, on peut dire que. Alors, moi, j'ai une formule peut-être qui peut nous aider.
Vas-y.
Walter White est confronté à son destin.
Il est confronté à son destin, et là justement on en parlait tout à l'heure aussi en même temps en antenne, c'est peut-être aussi le moment où il essaye de se racheter une conduite.
On va parler de la morale juste après.
Restons sur ce qui
nous a marqué. Moi, je me souviens aussi de ce nounours dans la piscine. C'est l'effet papillon. Vous vous souvenez de ça?
Ouais.
En fait, c'est sur toute une saison. On voit au début de chaque épisode un nounours qui flotte dans une piscine. Et alors, ce qui est génial, c'est que c'est lié à la mort de Jane.
Pourquoi?
C'est lié à la mort de Jane.
C'est ça.
Parce que voilà, il va y avoir la mort d'un personnage important, la copine de Jesse, à cause de Heisenberg, clairement. Et ça va avoir des conséquences, mais en chaîne, quoi. Et jusqu'à un accident d'avion et le nounours dans la piscine.
C'est ça.
Parce que le père de Jane est contrôleur aérien. En fait, voilà. Donc ça, c'est ce qui est génial dans cette série, c'est quand même ça. La construction est incroyable parce que on a là, sur une saison entière, un fil rouge, quoi.
Oui, et puis à chaque début d'épisode, on a un petit morceau de scène qui va annoncer ce qui va se passer après. Enfin, tout l'épisode est un flashback par rapport à ce petit moment-là à chaque fois.
Très bien pensé. Premier épisode, on voit Walter White en slip kangourou blanc en plein milieu du désert.
Là,
tu regardes ça, tu dis what the fuck, c'est quoi le truc, quoi.
Et il y a de la bonne musique d'ailleurs à ce moment-là.
Ouais.
Moi, ce qui m'a marqué aussi, je sais pas vous, mais c'est que c'est une scène, alors complètement involontaire, une scène involontaire. C'est quand Walter White sort très très énervé de chez lui avec une pizza, il la balance comme ça, et en fait, elle tombe sur le toit de sa maison. Vous vous souvenez pas de ça ?
Oui, bien sûr que si. Et alors, je peux même donner un fun fact à cause de ça.
Fun fact.
La maison qui a servi
à Albuquerque,
ouais. Et ben, elle a appartenu à quelqu'un. Et pendant un moment, les gens ont fait un appel qui ont habité là pour dire aux fans d'arrêter de lancer des pizzas sur le toit,
exact.
Parce que comme une sorte de personne qui jetterait des pièces dans une fontaine, les fans venaient jeter des pizzas sur leur toit tout le temps.
Mais les gens qui habitent là, ils en peuvent plus. Hein.
Ouais. C'est horrible.
Ah, mais par contre, je fais un petit aparté pour vous dire, jeu de mots vraiment de qualité, hein, pour vous dire que puisqu'on parlait de Albuquerque, je vous avais envoyé, les gars, il y a pas longtemps. Alors je vais voir si vous l'avez vu, si vous regardez ce que je vous envoie.
Pas toujours.
Toujours. Il y a un épisode, sur YouTube, vous pouvez trouver. C'est Arte qui fait ça. C'est Albuquerque, décor stupéfiant de Breaking Bad. Excellent reportage.
Ah oui, génial.
Franchement, je vous suggère de le regarder pour
J'ai
les fans
pas eu
de l'émission.
Temps encore, mais je l'ai
très
retenu.
Bien.
Super.
Mais moi, je mets, tu sais, j'archive pour regarder. Parce qu'en fait, j'écoute en voiture, je regarde plus tard. Non, mais c'est vrai.
Si vous avez aimé la série, vraiment, je vous recommande de le regarder.
Petite pause, Pablo, une dernière petite chose.
Il y a le petit truc en plus. C'est un épisode qui s'appelle Ozymandias. Qui a été traduit par Seul au Monde. Dans la saison 5, l'épisode 14. Donc c'est l'antépénultième. C'est
joli.
Avant-dernier. En fait, c'est un épisode de révélation. C'est-à-dire que là, bon, attention, allez prendre un café, spoiler. La mort de Hank, la révélation de qui a tué Jane, Skyler qui le quitte clairement. Enfin bref, on a la totale.
Ouais, voilà, c'est vrai. La loose. Fini le spoil.
Juste avant l'aparté, moi mon épisode préféré c'est la sonnette. Clairement, vous savez de quoi je parle. Iconique.
Iconique cet épisode. Surtout quand Gus Fring se tourne comme ça.
Exactement. Oh, ça reste un truc hyper marrant.
C'est l'épisode marquant, climax de la
meilleure saison qui est pour moi cette saison là.
Et ça montre aussi toute la froideur de ce personnage de Gus Fring.
Tout à fait.
Jusqu'au bout. Reste stoïque.
Ouais, c'est iconique.
Petite pause musicale. Romain, tu as choisi The Offspring avec Come Out and Play.
Ouais, je expliquerai après pourquoi.
C'est parti dans Monde Geek Mafia sur Radio G. 101.5.
Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated.
Separated. Hey, voilà, c'était The Offspring avec Come Out and Play. Alors Romain, pourquoi?
Eh ben justement parce qu'on vient de chanter ça. Déjà, ça fait hyper plaisir de réécouter ce qu'on a écouté quand on était jeune, 1994. Il y a quelques années. Et parce qu'en fait, c'est, alors peu de gens sont au courant de ça, mais justement dans les premières secondes, et là on l'entend dans le refrain, You gotta keep them separated, ça fait allusion au Bécher, parce qu'en fait le leader de Offspring est chimiste aussi, et cette petite phrase là qu'il a introduite dans ce titre iconique, ça fait référence à de la chimie et aux manipulations qu'il faisait avec les Bécher, tout simplement. Donc voilà le clin d'œil.
Alors les gars, il est l'heure de parler d'une question grave. La morale dans Breaking Bad, y a-t-il une morale? Est-il immoral? Est-il amoral? Est-il manipulateur? En tout cas, il est violent. Ouais. Les gars, qui veut démarrer sur cette question philosophique?
Eh ben, si tu veux, je peux démarrer. Moi,
ce que je trouve
intéressant dans ce sujet-là, c'est que justement, à t'en parler tout à l'heure, et justement, je vais faire la jonction avec ça. Ce qui peut être... Ah, derrière, on entend Sugarman. Je vous le conseille, de Sixto Rodriguez. Et d'ailleurs, je vous conseille aussi, je dis, un Searching for Sugarman.
Il fait des digressions tout le temps.
Ah ouais, je suis obligé. Mais regardez ça, c'est génial. On embrasse Sony aussi.
C'est incroyable.
Et ouais. Et du coup, alors, je disais justement que ce qui peut paraître... Cette série, elle est hyper intéressante parce qu'hyper riche. En soi, moi, j'y vois des choses qui sont morales, des choses qui sont amorales ou immorales. Et justement, ça t'interroge, toi, sur ton rapport à la moralité. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Parce que ça te fait te poser des questions aussi. J'explique pourquoi. Dans un premier temps, évidemment, et on est relativement tous d'accord là-dessus, sans trop spoiler, on l'a un peu évoqué précédemment. Bon, elle est éminemment morale, puisque vous avez parlé de grandeur et décadence, et surtout décadence. Bon, ben voilà, ce type qui va tout faire de l'argent à tout prix avec la drogue, ça va très, 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 très mal se finir pour lui.
Il va être confronté à son destin.
Voilà.
Voilà.
Donc, on peut dire qu'effectivement, la série, le message reste que, bah, quand on choisit le mauvais chemin, on le paye d'une manière ou d'une autre.
C'est vrai.
Donc, sur ça, on peut dire,
par exemple, il va perdre sa famille, il a plus d'amis,
il va prendre cher. Hein,
il va prendre cher. Peut-être pas autant que Jesse,
mais tout son fric,
que Jesse, c'est le paillasson, quoi.
Voilà, bon, c'est vrai.
Et ce qui est intéressant sur l'aspect non moral et notre rapport à la moralité, qui m'a passionné dans la série.
Morale, moralité.
Ouais, c'est ça. C'est pas tout à fait. Mais pour le coup, c'est notre rapport au personnage, parce que vous l'avez mentionné précédemment. Au départ, il est attachant parce que c'est un prof qui essaie de faire du mieux qu'il peut avec ce qu'il sait faire.
Et avec sa maladie.
Et puis d'un coup, il va se retrouver dans une scène assez iconique aussi où il se retrouve à nettoyer la voiture d'un de ses étudiants.
Oui. Oh là là.
Il se sent humilié parce qu'il est obligé de faire des petits boulots en plus. Et il va basculer de manière un peu au hasard, parce qu'il va regarder un reportage avec Hank justement, et il va voir que c'est Hank qui va l'expliquer. Ben, on a serré ces gars-là qui faisaient de la meth, et ils font combien d'argent, ces gars-là? Et du coup, il se rend compte que c'est un chemin facile, et comme il a peu de temps, bah c'est le meilleur moyen de faire de l'argent.
En plus, il va fabriquer, il faut quand même le dire, une méthamphétamine
de
pure,
qualité, mais
de très grande qualité, et bleue.
Et donc au début, on est attaché à ce personnage, même s'il choisit une mauvaise voie. Et puis plus la série avance, plus il commet des actes sans les dévoiler, qui sont absolument odieux. Enfin, c'est même plus qu'odieux, c'est horrible. Et ce qui est intéressant justement, c'est que notre regard sur le personnage. Alors vous avez parlé de moments où vous avez commencé à le détester, des moments où vous êtes détaché du personnage. Et en fait, on se dit mais moi je l'aime toujours.
Mais il est fascinant.
Et ça fait penser à ces personnages de série comme dans Dexter, où on s'attache à un type qui est épouvantable en fait. Ouais. Et donc notre rapport à notre morale par rapport à
surtout
ça.
Surtout dans beaucoup de séries des années 90-2000, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnages principaux masculins, toxiques, violents.
Oui.
Il y en a énormément. On parlait de Tony Soprano, tu parles de Dexter. Mmh. Il y en avait plein. Il y a dans The Wire, dans The Shield.
Magnifique.
Enfin bref. Et Oz, je ne sais pas si vous avez vu cette série aussi.
Ah non.
Si, oui.
Ça se passe en prison. Mmh. C'est, bon, voilà. Alors, qui veut réagir au point de vue de Romain? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça?
Oui, non. Disons que moi, je trouverais quand même la morale de cette série, c'est, on peut la résumer sur une phrase qui est quand même assez connue, c'est bien mal acquis ne profite jamais.
Oui, oui.
Parce que c'est cette facilité finalement, oui, effectivement, de trouver de l'argent facile, mais l'argent facile à quel prix aussi en même temps.
Non, mais ce qui est alors.
Et ça qu'on trouve moral finalement, okay, c'est le message.
Mais en même temps, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que en fait. Ça, c'est une première couche. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, ouais, voilà, en apparence, clairement, il y a la morale, il y a la rédemption, le méchant est châtié. Mais en même temps, tu te rends compte au départ que ce pauvre Walter White dont on a parlé, le professeur qui a tout perdu, il s'est même fait piquer ses brevets.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai,
on l'apprend.
Je veux dire, c'est vraiment le loser au départ.
En fait, et le mec, c'est un génie.
Et
là, tu te dis, en fait, il va faire un truc immoral, mais dans un monde immoral.
Oui, tout à fait.
Tout est immoral.
Ah ouais.
Donc en fait, tu te dis,
moins plus moins égale plus.
Voilà. Donc tu te dis, bon, ok.
Ça justifie.
Je veux dire. Ok, il est moral, mais il y a pire que lui. Il y a des monstres partout, en
fait.
C'est
sûr.
En même temps, juste une question. En même temps, est-ce qu'on est prêt à faire, comment dire, à ce que...
Est-ce que la fin justifie les moyens?
La fin justifie les moyens.
C'est ça.
Jusqu'où, en fait?
Ça, c'est une question de morale.
Eh ouais, clairement.
Ben oui.
Alors,
oui.
Toi,
alors moi, je voulais dire juste une toute petite chose, c'est qu'on peut se poser sur ce plan-là.
Ouais.
Mais en fait, je trouve que la problématique de Walter White, et son problème, en fait, voilà, c'est pour ça que je bafouille, c'est qu'en fait, au départ, il fait ça avec les meilleures intentions du monde.
Ouais, c'est ça.
C'est-à-dire que c'est pas une question de morale, c'est-à-dire c'est vraiment une question de survie. Et donc on va citer un autre proverbe. Hein, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que il fait ça pour sa famille, pour et c'est pas ça le problème en fait. C'est plus tard que les problèmes arrivent, comme tu l'expliquais un peu. C'est-à-dire que à partir du moment où il va y avoir de l'argent, mais surtout du pouvoir. C'est-à-dire que Walter White, c'est le loser qui devient un mec puissant.
C'est ça.
Et il veut, d'une certaine manière, pas se venger, mais peut-être se racheter, en fait. Et c'est terrible, en fait. Parce qu'on peut se poser sur le plan de la morale de la société, mais sur sa morale personnelle. C'est le mec qui s'enfonce, mais tout seul, quoi.
Complètement. Et même, mais est-ce qu'on peut pas se demander si à la fin, au fond, quand il revient sur son passé ou sur son histoire, et qu'il dit qu'il a kiffé être Heisenberg.
Mais oui.
Est-ce qu'on peut pas se demander si au fond il attendait que ça, c'est-à-dire que
d'exploser
le prétexte de la mort imminente qui va arriver là,
de ce qui est suicidaire,
de se dire en fait maintenant je vais vivre la vraie vie que j'ai jamais voulu,
je me suis toujours interdit de vivre.
C'est ça.
Ouais, et puis surtout qu'il était malade.
Là, tu te dis mais en fait
il était malade, donc
c'était une ordure dès le départ le mec.
Possiblement,
mais alors c'est la maladie qui l'a rendu comme ça.
Et voilà.
C'est l'injustice. L'injustice de la vie.
L'injustice. Tu t'es fait marcher dessus, et là d'un coup la maladie tombe.
C'est le frustré qui peut s'exprimer pleinement, se venger de toutes ses frustrations.
Donc là c'est plus psychologique.
Ouais, là, c'est ça.
Oui, mais notre rapport à nous, à l'amour qu'on porte au personnage. Et alors
l'amour, t'exagères.
Oui, mais tu comprends ce que je veux dire.
L'attachement. On est. Non, mais il est fascinant.
C'est pour ça.
D'accord.
Mais si tu veux,
il est extrêmement bien joué par Bryan Cranston.
Mais tout à l'heure tu parlais de Skyler en disant qu'elle était détestée, mais pourquoi je fais le lien avec ça, c'est parce qu'il y a une raison, c'est qu'en fait elle entrave les plans de Walter White dès lors qu'elle sait, et les gens s'attachent au personnage de Walter White, et curieusement malgré les horreurs qu'il a pu faire ont envie qu'il réussisse dans l'entreprise
parce que la morale est du côté de Skyler.
Et je vais même te dire mieux, parce qu'il y avait une petite scène que j'avais complètement zappée. Il y a un moment quand même il fait une tentative de viol sur Skyler.
Oui, tout à fait, oui.
Et elle l'arrête, mais vraiment, tant bien que mal, mais il allait la violer. Alors, on dirait que c'est sa femme, mais non, c'est un viol.
Non,
on est d'accord, les gars. Donc, vous voyez bien. Et en fait, on est tellement focus sur lui et sur ce que tu dis, que du coup, limite,
la victime. Donc, il faut qu'on évoque la violence dans Breaking Bad, parce que c'est une série extrêmement violente.
Extrêmement violente.
Il y a beaucoup de morts, beaucoup d'agressions, beaucoup d'humiliations.
Ouais.
Enfin, c'est de manipulation. Tortuga, quand même.
Tortuga, qu'est-ce qui lui arrive Il se retrouve décapité, quand même.
Ouais, il a une tête sur une tortue.
Il y en a qui explosent.
Oh là là.
Il y a les deux tueurs à gages, les jumeaux, là.
Ah ouais.
Ils viennent buter tout le monde.
Oui, bien sûr.
La Santa Madre. La Santa Muerte.
Et puis, il y a un personnage que j'ai pas évoqué tout à l'heure, que j'adore et qui est d'une violence et qui est une pile électrique, qui est Tuco Salamanca, que je trouve extraordinaire. Il fait partie de mon top 3 de mes préférés.
Ah oui,
il est incroyable, Tuco Salamanca. Vraiment, il est.
Ouais, et le grand dealer Salamanca est pas mal. Ah,
justement, parce que moi, j'étais toute la sonnette, quoi. La sonnette.
Ah ouais.
Ah, c'est magique.
Les gars, on fait une petite pause musicale.
Ouais, oui.
Ça vous dit?
Allez. C'est parti.
Alors, vous nous avez proposé aussi peut-être un petit Bad Boy de Billie Eilish, parce qu'on parle de Walter White qui est un bad boy, surtout quand il devient
un bad guy.
Heisenberg.
Pardon, bad guy.
C'est ça.
Dans Bang Mafia sur Radio G.
101.5, la radio
qui fait le point.
Reach all the need, we still pity the men I know.
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Alors, c'était Billie Eilish avec Bad Guy, bien sûr.
Bad Guy, ouais. Il faut dire que Billie Eilish, c'est quand même la première star internationale née au XXIe siècle.
Et nous continuons notre voyage cérébral.
Alors nous
continuons, parce qu'on a parlé de morale et ça nous a bien retourné le cerveau. Et là on va parler de El
Camino. Continuons notre voyage, effectivement, notre parcours en parlant de El Camino, le film et
notre chemin,
le spin-off de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul. Alors peut-être d'abord Better Call Saul, puisque chronologiquement c'est arrivé juste après Breaking Bad. Hein.
Ouais.
C'est un spin-off, donc c'est-à-dire une série dérivée de la première série qui raconte l'histoire de du grand Saul Goodman, mais qui ne s'appelle pas Saul Goodman au départ,
ouais,
et qui est l'avocat de Walter White et de Jesse Pinkman dans Breaking Bad. Alors, qu'avez-vous pensé de Better Call Saul?
Alors, juste une chose, parce que moi, je n'ai pas vu la série,
ouais,
mais vous pouvez la spoiler, il n'y a aucun souci, mais juste une chose, parce que moi, au départ, tu dis le grand...
Saul Goodman.
Ben
oui.
Au départ, enfin, dans Breaking Bad... Il est quand même assez...
Oui, il y a un côté pitresque.
Assez minable.
Mais il faut voir Better Call Saul.
Et alors, voilà,
c'est pour ça.
Il prend sans doute une autre dimension.
Oui, parce que dans Breaking Bad, tu as raison Pablo, c'est l'avocat véreux.
C'est ça.
Il blanchit de l'argent, il fait des publicités un peu ridicules à la télé, sur les bancs, etc. Parce qu'il y a un peu des pubs partout.
Exact.
Sauf que ce qui est intéressant dans Better Call Saul, c'est de voir le parcours. Comment a-t-il fait pour en arriver là?
Pour en arriver là, pour devenir cet avocat, cette pourriture d'avocat, parce que là c'est vraiment...
Alors qu'il ne l'est pas au départ.
Non. Au départ, c'est James McGill, tout simplement, un avocat. McGill qui essaye finalement de se faire un nom dans ce monde, et qui est sous l'influence de son frère, Charles McGill. Alors, dit Chuck, qui est un personnage un petit peu particulier, parce qu'il est le patron d'une grande boîte d'avocats, mais personne ne le voit parce qu'il est électrosensible.
Ouais.
Voilà.
Il se cache derrière des feuilles de papier aluminium.
Ça m'a permis de découvrir cette maladie, quoi, finalement, l'électrosensibilité. Et puis, le frère, donc James, il essaye d'être à la hauteur de son grand frère, qui est quand même le meilleur, mais l'autre ne cesse de le rabaisser en lui disant, de toute façon, tu n'es qu'un loser. Voilà. Et du coup, on va voir durant toute cette...
Cette série,
eh bien, on va voir finalement à la fois la descente et puis la montée, le renouveau, le phénix,
ouais,
tel un phénix qui va apparaître et qui va dépasser ce grand frère, mais peut-être aussi pas forcément.
En fait, c'est pas
côté.
Le même parcours que
non.
Walter White. Walter White, il s'enfonce, hein,
oui.
Voilà. Il va du haut vers le bas, alors que Saul Goodman, c'est irrégulier.
Ça va mieux, ça va plus.
Il oscille.
Erratique.
Ouais, exactement. Parce
okay.
que il devient un grand avocat, puis il plonge, il redevient un avocat véreux. Enfin, alors qu'au départ, il est rien, il devient un truc génial, puis après un truc nul. Enfin, c'est. Alors, moi, c'est quand même moins bien que Breaking Bad.
Oui. Ouais.
Mais je vois quand même un point commun énorme, c'est la performance de l'acteur.
Oui.
Bob Odenkirk, il est aussi bon que Bryan Cranston.
L'esthétique aussi, je trouve que c'est
ouais,
très soigné. Aussi.
Et on retrouve l'esthétique.
Ouais.
Toi qui aimes l'esthétique, Pablo,
ouais.
Tu vas aimer.
Ça m'a plu, c'est ça qui m'a
et
un peu accroché.
Et ça se passe à Albuquerque aussi.
Ah oui,
trop bien.
D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que plus les saisons avancent, plus on voit arriver Walter et Jesse, en fait.
Ok. Ouais. On les voit arriver.
Enfin, on les voit pas au début.
Ouais, non.
On voit des personnages, là, justement, comme Mike. On voit aussi l'importance
ouais,
de Mike.
Ça. Mike
et
est là.
Le lien.
Mike est là, c'est ça.
Mike est là.
Tout est là. Enfin, la ville est là, en fait.
Tout est là.
Mais à un moment donné, ils se croisent.
Ouais.
C'est fou. Crossover, et là ce crossover, ça fait émerger justement Saul Goodman.
Est-ce qu'on conseille Better Call Saul?
Bien sûr, mais ça fait un peu comme une drogue de substitution quand t'as été vraiment drogué à Breaking Bad, justement.
C'est la méthode.
Tu arrives à décrocher, tu regardes cette série, elle est vraiment vachement bien. C'est pas une sous-série, mais c'est vrai que pour les fans de Breaking Bad, c'est un ton en dessous quand même.
Ouais, c'est un peu moins bien.
Par contre, on va dire exactement comme pour Breaking Bad, parce que Breaking Bad, ils se sont arrêtés, ils ont su s'arrêter. Ils ont fait 5 saisons, ils ont su s'arrêter. Et Better Call Saul, c'est pareil, c'est 5 saisons et stop, on arrête.
Il était temps.
Non, mais oui. c'est alors, bien.
Le problème de Better Call Saul, c'est qu'il y a eu une saison de plus que prévu.
Oui.
Parce qu'en fait, ils avaient prévu de faire quelque chose de plus court, puis comme ça marchait bien, ils ont rajouté la saison de trop.
Mais la saison de trop, mais bon, enfin bref, ils ont su s'arrêter, ils en ont pas fait.
Alors, on parle d'El Camino. El Camino, c'est un film de 2019, et là, c'est la suite directe de Breaking Bad sous forme de film. On va retrouver évidemment Jesse Pinkman, puisque c'est le parcours de Jesse après son. Alors, pas son incarcération, mais son.
Ouais, c'est.
Son emprisonnement,
quand même.
Sa séquestration. Merci.
Séquestration, c'est ça qui nous manquait.
Donc il était séquestré, il s'échappe et il part sur le chemin, El Camino.
C'est sa cavale. Alors, tu veux en parler, Romain?
J'ai bien aimé.
Moi, je t'avoue que j'ai bien aimé. Alors, le rapport que j'ai à ce film-là, c'est justement que j'ai eu peur de le voir.
Ouais.
Je me suis dit, Breaking Bad, c'est tellement bien et ça s'est tellement bien terminé à
et
mon
ben,
sens.
J'ai eu le même problème.
Que je me suis dit, je peux pas regarder ça parce que ça va être la touche de trop alors que ça s'est très bien fini pour moi donc je veux pas un truc en plus. Et je l'ai vu vraiment des années, je crois que l'année dernière en fait.
Ouais.
Donc vraiment des années plus tard et j'ai apprécié de revoir ça, mais je dois dire quelque chose, j'aurais pu m'en passer.
Alors voilà, moi je suis ambivalent. Après Pablo, peut-être je te laisse la parole, excuse-moi.
Non, vas-y.
Je suis ambivalent parce que j'étais moi très content de retrouver l'univers de Breaking Bad, ouais. De retrouver Jesse, de retrouver ses potes, de retrouver voilà Albuquerque, Mike, tout ça. Enfin.
Ouais.
Mais. Oui. Oui, mais faut pas que j'en dise trop.
Non, ouais, parce qu'il y a des flashbacks.
Mais c'est un ton en dessous comme tu dis. C'est-à-dire que moi j'étais, j'avais pas peur de le voir, j'étais content de le voir. J'ai pas été vraiment déçu. En fait, puisque c'est plutôt bien, mais c'est pas aussi bien.
Ouais.
Voilà.
Non, mais j'ai pas grand chose à rajouter. Moi, je dirais que, effectivement, ce que j'ai apprécié, mais comme toi, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je me suis dit, mais voilà, la fin, elle se finit bien. Enfin, globalement, c'est une belle fin. Et là, on a quand même une continuité qui est très logique en fait, qui est complètement logique. On retrouve notre bon Jesse Pinkman, un peu paumé, qui a pris une dimension, qui a pris un peu de bouteille. D'ailleurs, il avait grossi l'acteur Aaron Paul.
L'autre aussi, il a triplé.
Mais bref, mais en fin de compte,
la cantine était bonne.
Mais c'est ça. Mais il y a leur cavale et je trouve ça super bien quand même.
La cantine.
Voilà. La cantine.
Il y en a toujours un petit peu.
Elle est toujours présente.
Excusez-moi,
ouais, donc pareil.
Plus fort que moi.
C'est un ton en dessous.
Je m'attendais pas à l'avoir aujourd'hui.
C'est ça, moi non plus. Alors, c'est un ton en dessous. On peut s'en passer, mais voilà, ça vaut le coup quand même de voir pour avoir la petite fin.
Tu l'as pas vu.
Okay. Je l'ai pas vu.
Donc alors, on va passer au fun facts.
Voilà.
Alors c'est les Beastie Boys, on entend cette musique dans un épisode de Breaking Bad.
Avec des voix tibétaines.
Oui, c'est ça.
Ouais. Mongol.
Ou scandinave aussi en même temps.
C'est des moines tibétains. Ouais. The day I follow Audrey Hale Clayton on a wet deck. That day. Fun facts, les gars.
Alors, j'y vais très vite et je garde le meilleur pour la fin, je vous dis tout de suite. Premièrement, est-ce que vous saviez que Walter White, qui est donc campé par l'excellent Bryan Cranston, était le troisième choix et qu'avant lui, il y avait deux autres acteurs qui étaient choisis? Est-ce que vous connaissez le nom de ces acteurs?
Absolument pas.
Pas du tout.
Non, je vois pas.
John Cusack et Matthew Broderick étaient pressentis pour son rôle et finalement, c'est tombé sur Bryan Cranston et pour notre plus grand plaisir, puisque évidemment.
Il a été magistral.
Contre-emploi par rapport à Malcolm.
Exactement. Ah bah,
complètement.
Fun fact, pour de faux, clin d'œil halluciné, lorsque les personnages sont censés fumer de la meth, les acteurs utilisent en réalité du sucre cristallisé et des sucres d'orge dont ils n'inhalent pas la fumée.
Heureusement. Parce que...
Rappelez-vous que Walter, d'ailleurs, ne goûte jamais son produit.
Non.
C'est vrai. À la différence de Jesse.
Oui. C'est vrai.
Et quel lien avec l'Espagne?
Alors j'y viendrai après. Juste un autre fun fact, si vous avez aimé la série Seinfeld, aussi bien Hannigan, donc Skyler, Bob Odenkirk, Saul et puis Bryan Cranston ont joué dans cette série également, les trois.
Ah,
ok. Ouais. Alors je te le dis, les trois sont passés par la case Seinfeld, la série culte des années 90. Hannigan joue la petite amie de Jerry, Seinfeld, dans la saison 5. Cranston, le dentiste du héros. Et Bob Odenkirk, un faux docteur qui sort avec Hélène.
D'accord.
Wow.
Eh ouais.
Jamais vu Seinfeld. Beaucoup entendu parler. Mais...
Ensuite, une question de couleur. Lorsque l'on y regarde bien, on peut remarquer que dans chaque épisode de Breaking Bad, Walter porte au moins une fois quelque chose de vert. Cette couleur est également utilisée pour le titre de la série. On pourrait y voir évidemment facilement un lien avec l'argent, bien entendu.
C'est vrai qu'il a une chemise verte dès le premier épisode. Mmh. Ah oui, le dollar.
Le dollar. Et puis il est surtout un slip kangourou. Hein,
dès le premier épisode. Mais il est pas vert.
Il est blanc.
Il est propre.
Alors il y a
c'est vrai. C'est un détail.
Mais pour moi ça veut dire beaucoup.
Il jouait pas de piano debout lui par contre. Non mais en l'occurrence dernier fun fact, il y en a des détails. Savez-vous qu'il existe une vraie histoire de Breaking Bad en Espagne? C'est-à-dire qu'il y a un prof en 1995, donc bien avant la série, de l'université de Salamanca et qui a
prestigieuse.
C'est possible.
Inspiré l'auteur.
En tout cas, c'est un prof de chimie de l'université qui a vendu dans la, ça s'appelle en espagnol la ruta del bacalao. En fait, l'idée c'est des gens qui écoutent de la techno et tout ça. Donc, il a vendu un produit. Point commun avec la série, ce qui faisait la différence avec son produit, c'était la pureté qui était sans commune mesure avec ce qu'il y avait sur le marché.
Et le mec, sûr que c'est inspiré Vince Gilligan.
C'est possible. Le mec a été mis en prison. Il est ressorti de prison. Et évidemment, bon, il s'est assagi. Pas du tout. Non. Il a jugé qu'il avait été maltraité par la société. Et en fait, il a revendu, il a fabriqué de la MDMA. Qu'il a essayé de revendre, je crois que c'est 36 000 ou 360 000 pastilles qu'il avait faites. Et il s'est fait rattraper. Donc voilà, c'est le Breaking Bad espagnol. Bien avant la série.
Le vrai Breaking Bad.
Le vrai.
Seb, quelques infos amusantes.
Oui, autour de la série, justement. Alors tout d'abord, on a Los Polos Hermanos, là, qu'on connaît tous. Hein,
les frères poulets.
Les frères poulets. Eh bien, sachez qu'un restaurant Los Polos Hermanos a ouvert à New York en mars 2017. Dans la même série, on peut toujours continuer aussi. Donc, j'avais vu ça là tout à l'heure, je vais le retrouver. Le Walters est un café qui a ouvert ses portes à Istanbul le 29 mars 2015. Il s'inspire de la série et les gérants portent des combinaisons jaunes similaires à la série. Ces petits clins d'œil, on les retrouve aussi dans pas mal de choses. Par exemple, dans le film d'animation Zootopie. Mmh. Eh bien, à un moment, un animal présent dans le laboratoire est vêtu d'une blouse jaune et fabrique une substance de couleur bleue.
Et voilà.
Et ses deux coéquipiers se nomment Jesse et Walter. Mmh.
Et d'ailleurs, excuse-moi Seb, oui. Parce que je viens de voir le logo de Los Pollos Hermanos qui est jaune et bleu.
Oui, tout à fait.
J'avais jamais fait ça.
Il faut faire. Il y a des petites choses. Et puis, on parlait de la série Malcolm, mais il faut savoir aussi que dans la série Malcolm, il y a aussi un clin d'œil sur la série Breaking Bad, puisqu'une séquence a été tournée pour l'intégrale de la série où Hal, le père de Malcolm, se réveillant sursaut avant de raconter à son épouse Loïs le cauchemar qu'il vient de faire. Il était devenu un trafiquant de drogue.
C'est donc voilà, il y a plein de petits clins d'œil dans pas mal de choses comme ça qu'on peut trouver dans le film Dumb and Dumber. Le laboratoire pour fabriquer de la méthamphétamine
est installé dans l'appartement de Harry, une personne habillée comme Walter White et qui est en train d'en fabriquer justement. Il y a plein de clins d'œil comme ça.
Génial. Ouais. Série culte donc. Breaking Bad.
Ouais voilà, on saurait trop vous la conseiller. Quoi.
Los Pollos Hermanos, un bon geek mafia sur Radio G.
Yeah.
Une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Alors des petites brèves culturelles, hein, on s'éloigne un tout petit peu de Breaking Bad pour vous parler un peu de l'actualité. On finit toujours les émissions comme ça. Ouais. Rapidement, moi je regarde une série sur France Télé, voilà, en replay. Ça s'appelle Salade Grecque. C'est réalisé par... comment il s'appelle celui qui a fait l'auberge espagnole, ça y est.
Feta.
Ah oui. Ah oui, voilà. J'ai un trou de mémoire.
Clapiche.
Voilà, Cédric Clapiche. Merci les gars. Clapiche. En plus, je suis en train de regarder la série. Donc Cédric Clapiche a fait des films, l'auberge espagnole, les poupées russes, etc. Ouais. Donc là, c'est Salade Grecque. Ah, c'est une série. Ouais. C'est l'histoire de ses enfants, en fait. les enfants du pas les enfants
de Duris,
de Clapiche, mais les enfants du personnage principal joué par Romain Duris, Xavier Rousseau, partent comme lui en fait à l'étranger en tant qu'étudiant. Lui, il était parti à Barcelone par exemple. Eux, ils sont en Grèce à Athènes, d'où le titre.
Bien sûr.
Salade grecque. Et en fait, c'est plutôt sympa. D'abord, c'est amusant. Ça parle de la jeunesse d'aujourd'hui, mais surtout, ça parle beaucoup des migrants et de l'accueil des réfugiés en Grèce, qui est un vrai sujet là-bas. Et c'est une série très bien faite, très intelligente. Je vous la conseille. C'est gratuit. C'est sur France Télé, Salade grecque.
Ouh, tu m'as donné vraiment envie, là.
Cool. Une petite salade avec un peu de feta.
Voilà.
À vous, les gars.
T'avais un livre?
Ouais, moi j'ai un livre, un roman de Olivier Norek, Les Guerriers de l'hiver, aux éditions Michel Lafon. C'est au cœur du plus mordant de ces hivers, au cœur de la guerre la plus meurtrière de son histoire, un peuple se dresse contre l'ennemi et parmi ses soldats naît une légende, la légende de Simo, la mort blanche. Et donc là, on est transporté en 1939, tout simplement, entre la guerre entre Finlande et Russie.
Ah,
okay. Quoi, URSS plutôt. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait. Ça se lit assez facilement. J'ai pas encore terminé, mais franchement.
Ça a l'air génial. Olivier Norek est excellent.
Hein. Ah ouais, excellent.
Il écrit beaucoup de polars.
Bah oui, auteur de romans policiers, ouais. Code 93, Territoire Surdimension, Surface, quoi. Enfin bref.
Pablo, quelques recommandations pour nos auditeurs et auditrices?
Deux séries. Une série Netflix s'appelle Le problème à trois corps. Des créateurs de Game of Thrones, Benioff et Weiss. C'est une saison, 8 épisodes. Pour les fans de SF et d'énigmes, une série qui vous plonge dans une jeune équipe de scientifiques brillants. Associé à un inspecteur qui essaie de comprendre d'étranges suicides de grands scientifiques à travers le monde. Et il tente de déjouer une prochaine invasion extraterrestre.
Ok, excellent.
Ouais, c'est vraiment pas mal. Et alors, une autre série, alors vraiment kiffante, qui s'appelle Canal+, n'importe quoi, sur Canal+, une série Canal+, qui s'appelle La Fièvre. D'Eric Benzekli.
Ah oui, mais je lis hyper bien.
Elle
m'a mis la fièvre. Ouais,
ouais,
mais c'est l'histoire de NTM.
6 épisodes. Alors, c'est la série située en France, alors que toute la presse et les réseaux sociaux sont en émoi après le buzz provoqué par Fode Thiam, un footballeur star du Racing, qui a semé un violent coup de tête à son entraîneur.
Je confonds avec une autre.
Et oui, en le traitant en plus de sale toubab, blanc en Wolof, lors d'une cérémonie de remise de prix, deux femmes. Autrefois collègue et ami, Sam Berger, conseillère en communication, et Marie Kinski, stand-upeuse d'extrême droite, vont se livrer un combat sans merci pour influencer l'opinion publique.
Donc c'est une série politique, je me suis
alors
trompé,
c'est une
ça
série
rien à voir
politique,
avec
NTM. C'est ouais. Une série sur la communication et une série en fait qui nous parle de notre des enjeux de communication dans notre société actuelle et notamment de l'extrême droitisation.
Ok, voilà. On n'a plus beaucoup de temps, Pablo.
Non, c'est bon.
C'est bon et... pour toi. Ah, c'était Le Monde de demain, la série.
Ouais, c'est ouais. Ça. Et alors, sinon, je suis allé voir Le Comte de Monte Cristo au cinéma.
Okay. Bon, Paul a beaucoup aimé.
Très très bon. Je dirais divertissement. Franchement, Edmond Dantès, hein, qui s'est fait méchamment, emprisonné, manipulé et enfermé au château d'If, qui va s'évader et qui va devenir le comte de Monte Cristo pour se venger.
Mais c'est une série. Raconte pas tout.
Je vais juste dire que c'est quelque chose qui interroge pas seulement la vengeance, mais l'amour, le pardon et la justice.
Merci, Pablo.
Merci.
Merci de m'avoir coupé. Non mais c'est bien.
C'est l'air. Monsieur l'ascenseur, je ne vous salue pas.
Non mais là c'est horrible. C'est horrible. C'est dans un film d'horreur.
Alors on est bien là.
On est obligé de se quitter. Donc c'est pour ça que j'étais obligé. Désolé Pablo.
T'inquiète.
Ça va. De couper parce que après c'est Rudy's back dans 1:30. Donc il faut qu'on se dépêche.
Exactement.
On se quitte avec Baby Blue, un morceau de Badfinger. C'est le dernier morceau qu'on entend dans le dernier épisode de Breaking Bad. La série se termine sur cette musique.
Oh magnifique.
Quel talent.
On va écouter ça tout de suite et on se retrouve. Tout le monde dans deux semaines pour des musiques décalées.
Yes, des musiques décalées dans deux semaines. Bisous.
Allez, salut.